France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Tiens, mais de quoi on va bien pouvoir parler ce soir? Parce qu'il y a eu plein d'actu, hein. Par exemple, il y a eu 6 kilos de cocaïne découverts dans un parapente à l'aéroport de Bordeaux. Il y a aussi la mort du chien le plus laid du monde. Bon, en fait, on avait le choix, mais je sais pas pourquoi. Mon instinct, voilà, comme ça, de journaliste précieux, me pousse à parler football ce soir. Bah oui, ce soir, émission spéciale, hein, pour compléter son album Panini. Nous allons revenir sur la qualification des Bleus en finale. Nous suivrons également le match Croatie-Angleterre pour connaître nos adversaires dimanche. Bref, du sport, du commentaire et du aller les piou-piou. Et pour en parler ce soir, nous recevons Éric Métou de l'Express. Bonsoir.
Bonsoir.
Également Laetitia Bécon, bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef de Football Stories. Yves Bigot, bonsoir. PDG bonsoir. De TV5 Monde. Et Emmanuel Foulon, bonsoir. Vous occupez de la délégation du PS belge au Parlement européen. Il n'y a aucune perversité à vous avoir, à avoir un belge ce soir autour de la table. Véritablement, je vous assure, c'était prévu à l'avance. Donc, ne voyez pas le mal partout sur ce qu'on a gagné. Bref, les informés donc, de France Info, ça sent le vestiaire. Et oui, nous sommes un peu nostalgiques dès vous êtes là. C'est parti. Alors bien sûr, il y a eu le match, bien sûr, il y a la victoire sportive, mais il y a également cette liesse populaire qui a saisi tout un pays au coup de sifflet final à 21h54 précise hier soir. Selon Médiamétrie, cette demi-finale a été suivie sur TF1 par 20 millions de téléspectateurs. Bon alors, ce chiffre est totalement faux puisque les 20 millions de Français étaient sous mes fenêtres en fait. Hein. Dans toutes les villes, villages, hameaux, localités, une patrie a vibré à l'unisson pour cette qualification. Juste au départ, pour en parler, c'est vrai que Yves Bigot, on a vu immédiatement des réactions populaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment que le foot à ce niveau-là, c'est le dernier bastion du vivre ensemble, véritablement?
Alors oui, bien sûr, hein, parce que il n'y a pas plus fédérateur, il n'y a pas plus au niveau international, en fait. Hein. D'une certaine façon, vous savez, vous avez des sociologues qui vont vous expliquer que c'est ce qui a remplacé la guerre. Alors, tant mieux, parce qu'il vaut mieux la faire comme ça. Je veux dire, même les blessés, en général, se remettent assez rapidement. Mais ce qui a été, je pense, très, très frappant hier soir, c'est de voir justement combien de Français à Paris, mais aussi partout en région, sont sortis, etc., pour exprimer ce qui, visiblement, était un besoin viscéral de la société française de faire la fête.
Alors, vous savez que, juste, je vous coupe un instant, Yves, parce que vous savez qu'en même temps, on suit le match de l'autre côté, Croatie, et c'est vrai qu'on n'est pas habitué. Ouais. Je sais que vous aviez un œil, vous étiez un peu stressé, parce qu'il y a déjà un but, et sur place, on retrouve Franck Ballanger. Bonsoir, Franck. Donc, il y a un but. Hein.
Oui, un but pour l'Angleterre, un déboulé de Dele Alli pour les trois Lyons. Il a été légèrement poussé dans le dos par Luka Modric. Un coup franc transformé à l'entrée de la surface de réparation par Kieran Trippier, le milieu de terrain de cette équipe anglaise, le joueur de Tottenham. Magnifique intérieur du pied droit qui a trompé Daniel Subasic, le gardien croate. Ça part mal pour les Croates, 1-0 dès la cinquième minute.
Voilà, on aura l'occasion bien sûr de vous retrouver, Franck, tout au long de l'émission pour suivre ce match, donc pour connaître nos adversaires de dimanche. Mais juste au départ, ça va compte sur ce côté vivre ensemble, cette fête. Est-ce que ça vous a surpris, vous, cet élan d'un coup populaire, mais alors qu'on était juste en demi-finale, hein,
voilà. Ça m'a pas surpris que les gens soient si contents, c'est normal, mais en revanche de voir les Champs-Élysées remplis, oui, si rapidement,
impressionnant.
C'était hyper impressionnant, mais tant mieux, pourvu que ça dure jusqu'à dimanche.
Oui, mais c'était impressionnant, hein, les Champs-Élysées, quand on voit des photos, on a l'impression de voir même une coulée de lave, enfin, c'est impressionnant.
Oui, c'est absolument incroyable, et ça exprime donc combien ce pays meurtri, hein, depuis 3 ans et demi maintenant, a besoin de penser ses blessures à travers une célébration qui devient même une forme de congrégation, hein, donc avec quelque chose un peu de presque religieux, hein, qui fait que les gens ont effectivement besoin d'être ensemble et besoin surtout d'extérioriser la fierté, en fait, hein, surtout de la France et d'être français. C'est de dire, on a été à terre à plusieurs reprises ces dernières années, mais regardez, c'est nous la France. Et on va être champion du monde.
Alors, il y en a un qui est un fidèle, justement, de cette religion footballistique. C'est Jacques Vendroux. Bonsoir, Jacques Vendroux.
Comment ça va?
Très bien. Et vous-même, vous êtes à Moscou, vous suivez l'équipe de France. Aujourd'hui, c'était un jour de repos, hein, pour l'équipe de France. Est-ce que les joueurs français, bien sûr, qui sont très connectés, ils sont au courant de la liesse qu'il y a pu y avoir dans le pays hier?
Ce qui est extraordinaire, c'est que les joueurs de l'équipe de France, eh bien, vous savez, avec les réseaux sociaux, avec les différentes chaînes de télévision, je veux dire qu'il y a ici en Russie, ils ont vu à la télé, ils ont vu sur les réseaux sociaux, eh bien, le phénomène incroyable de, des Champs-Élysées. C'est une nouvelle fois, eh bien, les Champs-Élysées qui sont envahis avant une finale de Coupe du Monde. C'est vrai qu'il y a un engouement, mais quasiment du jamais vu. Je suis en train de me demander si c'était le même engouement en 98, ouais, quand on a battu la Croatie pour se qualifier pour la finale, pour jouer contre le Brésil. Je crois qu'il y a une attente, ouais, du peuple de France auprès de cette équipe de France de football, et elle a intérêt, croyez-moi, à être championne du monde.
Intérêt, en effet. Juste une chose, Jacques, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui, les joueurs français?
Eh ben, écoutez, d'abord, ils ont rencontré les familles.
Oui.
Leur épouse est venue, ils sont arrivés hier soir. Donc, évidemment, ils sont restés avec leurs épouses. Il y a la famille qui est venue aussi, les enfants, etc. Enfin, c'est une journée de break, comme on dit. Et ça, c'est une habitude que ont toutes les grandes sélections qui sont présentes ici. L'entraîneur, en l'occurrence, Didier Deschamps, eh bien, donne 24 heures de break. Ils font ce qu'ils veulent.
D'accord.
Ils sont quittés hier soir. Ils vont voir leurs épouses, les enfants viennent les embrasser, les parents font le déplacement pour passer un bon moment avec eux. Et puis là, les choses sérieuses reprennent. Ils sont retournés à Istra pour s'entraîner.
Donc, ouais,
entraînement tout à l'heure, de 17h à 18h. Et puis, et Didier Deschamps leur a laissé un moment d'égarement pour reprendre bien les choses en main dès ce soir.
Voilà. Un moment d'égarement, oui, Laetitia Bacon.
La semaine dernière, quand ils ont eu ces 24 heures, c'était une info d'un des diffuseurs français. Ils en ont profité pour sortir en boîte, quelques-uns, et quand ils sont revenus, ils ont fait une bataille d'extincteurs dans les couloirs de l'hôtel, alarme incendie déclenchée, et tout le monde a dû descendre à 5 heures du matin, dont Didier Deschamps en pyjama. Mais il l'a quand même bien pris, mais c'était une drôle d'anecdote.
Très bien. Mais est-ce que aussi cette liesse hier, c'était, parce qu'il y a un côté, on dit toujours, il y a la France, il y a 60 millions de sélectionneurs. Est-ce qu'il y a aussi ce côté, je participe véritablement, même avec les joueurs, il y a une vraie fraternité. Enfin, hier, c'était assez impressionnant.
Moi, j'étais assez surpris, oui, parce que jusqu'à présent, ça n'avait pas donné lieu à plus de liesse, ni même, enfin, même l'ambiance était plutôt morne, en fait, comparé à 98.
Et même 2006.
Ça se passait chez nous, en 98, ça se passait en France, donc c'était un peu différent. Et là, c'est venu d'un seul coup, un peu comme une bouteille de champagne qui saute, quoi. Et moi, j'étais assez surpris de la masse, de l'ampleur des réactions, qu'il y ait des voitures qui klaxonnent sous vos fenêtres, ça, c'était normal. Mais les Champs-Élysées remplies comme ça, qu'est-ce que ça va être dimanche, quoi?
Ouais, c'est ça. Allez, on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h10, Stéphane Milhomme.
L'ancien secrétaire d'État est poursuivi pour violence et outrage. Le parquet requiert 6 mois de prison avec sursis à l'encontre de Jean-Vincent Placé, avec obligation de soins pour son addiction à l'alcool. Le tribunal correctionnel de Paris rendra son jugement le 10 septembre. L'écologiste avait été interpellé ivre en avril dernier à l'occasion d'une soirée dans un bar du 6e arrondissement. Après l'attentat déjoué contre l'opposition iranienne fin juin à Villepinte, près de Paris, la France va bientôt remettre un suspect à la justice belge. Il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années interpellé à proximité de cette réunion politique. Deux suspects arrêtés également en Belgique. Et puis le diplomate iranien arrêté lui en Autriche a été placé en détention provisoire dans ce pays pour complot en vue de commettre un meurtre. Les pays de l'OTAN s'engagent sur les objectifs de dépenses militaires. Les dirigeants décident à Bruxelles aujourd'hui d'atteindre les objectifs fixés il y a 4 ans. Ils prévoient que chaque État membre consacrera d'ici 2024 au moins 2% de son PIB à son budget défense. Le président américain Donald Trump souhaitait que les pays atteignent le double, 4%. Déjà 1-0 pour l'Angleterre face à la Croatie. L'autre demi-finale du mondial a commencé il y a une dizaine de minutes. C'est à suivre sur France Info. Le vainqueur dimanche rencontrera la France. Et puis pour la deuxième fois, Peter Sagan remporte une étape dans ce Tour de France 2018. Victoire du Slovaque au sprint à Quimper après 205 km. Le Belge Van Avermaet conserve, lui, le maillot jaune de leader.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, spéciale équipe de France en finale de la Coupe du Monde, ça sera dimanche à 17h, on connaîtra bientôt nos adversaires. C'est en ce moment, c'est le match Croatie contre l'Angleterre, l'Angleterre mène 1-0. Alors Emmanuel Foulon, je me tourne vers vous, puisque vous avez suivi du côté de la Belgique ce match France-Belgique, Quel est, alors on a vu, alors vous avez ramené votre drapeau, c'est formidable, voilà.
Et, non mais c'est pas voilà, quoi vous parlez.
Non, c'est une sorte de couverture, voilà, un petit pilou pilou. Comment ça a été vécu justement cette défaite? On a vu une presse belge qui était catastrophique, qui a dit voilà adieu, voilà en larmes, merde même, il y avait marqué. Comment ça a été? Ça a vraiment été mal vécu?
Bon d'abord je ne comprends pas de quoi vous parlez parce que je vois pas de quelle défaite vous parlez. On joue la France demain, on ira sûrement en finale. Et voilà, sachez aussi que la Belgique ne perd pas, elle apprend. Et ça, c'est tout le monde quelque chose important à savoir dès le départ. Nous, on l'a vécu comme finale. Notre finale, c'était déjà le Brésil. Ça a déjà été aussi le Japon par la force des choses. Mais finalement, on est content d'avoir perdu cette finale parce qu'on n'en pouvait plus des petites blagues françaises. Votre gardien est trop courtois. Victoire des Français n'est pas un hasard. Vous êtes fait avoir comme des bleus. Quand il y a tirage de maillot, il n'y a plus besoin de sauce pour vos frites. La guerre des goals, il manque des goals parce que vous ne mettez pas le premier. Enfin, on a eu droit vraiment à toute la litanie, donc on est content d'en être sorti. Mais plus sincèrement, je pense qu'il y a eu un ressentiment parce que voilà, on était si près de la finale. Mais d'un autre côté, on a été battu par une équipe française qui était beaucoup plus réaliste et beaucoup plus solide. C'est comme ça que vous gagnez une finale finalement. C'est pas le plus fort, c'est le plus réaliste qui gagne.
On va y revenir un instant, mais tout à hors micro, vous me disiez que 98, quand la France a gagné, la Belgique l'avait assez mal vécu finalement.
Oui, je pense. Alors sincèrement, il y a eu un traumatisme qui est vraiment sous-estimé par le reste du monde, qui s'en fiche d'ailleurs totalement. Mais il faut se rendre compte quand même que la population francophone en Belgique, elle regarde 60 ou 70% du temps la télévision française. Elle connaît mieux les ministres français que les ministres belges, aussi parce qu'ils sont trois fois moins nombreux. Ouais. Et donc... de savoir, d'entendre que pendant 4 ans, vous avez chanté et 1, et 2, et 3, 0, la, 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 mais dans toutes les émissions, je me souviens, même les enfants de la télé, au JT, même au chiffre et aux lettres, on chantait 1, 2, 3, 0, même encore en 2001, 3 ans après. Donc évidemment que les deux premières années, on était dans l'empathie, dans la joie partagée, mais après, on a commencé à se lasser, et je pense qu'il y a eu, ça a beaucoup, sans déconner, ça a beaucoup joué sur les ressentiments qui ont eu lieu hier.
Yves Vigo, je me souviens, vous étiez là la dernière fois quand la Belgique affrontait le Brésil, parce que vous aussi, vous soutenez la Belgique à ce moment-là. Hier, c'était l'équipe de France, peut-être, je ne sais pas, c'était partagé pour vous. Cette équipe belge, finalement, elle a fait un parcours, on n'en parlait plus trop à un moment, la Belgique, et d'un coup, il y a eu cette génération qui est arrivée et qui semble aujourd'hui vraiment marquer les esprits. Hein.
Alors, elle remonte à il y a 10 ans, les Jeux Olympiques à Pékin, c'est là qu'on avait vu les Diablotins, comme ils s'appellent, les plus âgés donc de l'équipe actuelle, Fellaini, Compagny, Vertonghen, etc., on a senti qu'il se passait quelque chose avec cette équipe qui, effectivement, depuis 10 ans, avait totalement disparu des radars, ne se qualifiait plus pour les phases finales, ni de l'Euro, ni de la Coupe du Monde. Et puis, à partir de 2012, l'arrivée de Mark Wilmots comme sélectionneur, et puis, vraiment, la partie la plus jeune de cette génération dorée, donc De Bruyne, Hazard, Lukaku et compagnie, on a vu cette équipe représentait un potentiel extraordinaire. Alors, à la Coupe du Monde au Brésil, déjà, on attendait beaucoup d'eux. Ils sortent un peu sur un coup du sort, un tir dévié de Di Maria.
À l'Euro aussi, on attendait beaucoup à l'Euro.
Voilà, à l'Euro, ouais. En plus, elle s'était ouvert un tableau absolument formidable. 4-0 contre la Hongrie en 8e, ils jouent le Pays de Galles en quart. On dit, on va les retrouver en finale. Ben non, patatras, là c'est le Pays de Galles, on ne sait pas pourquoi, d'un coup psychologiquement, l'équipe, alors qu'il menait 1-0, en plus il avait fait le plus dur, s'effondre d'un seul coup en deuxième mi-temps face au Pays de Galles, donc on s'était pris à se dire, ben ils vont retrouver tout ce que on a reproché aux sélections belges, mais à des Brésiliennes ou à des Yougoslaves alors, par le passé, fragilité psychologique. Oui. Et puis là, dans cette Coupe du Monde, tout s'est bien mis contre le Japon, contre le Brésil. Et hier, ils font un bon match, mais vous avez tout à fait raison. Ils perdent face au réalisme français et face à la puissance physique.
Alors, on va écouter justement.
On les a mangés physiquement.
Dans les informés, on aime beaucoup les petites polémiques et on accuse la Belgique, désormais, d'être mauvaise perdante, un petit chouïa. On va écouter d'ailleurs Eden Hazard, c'était juste après le match, voilà ce qu'il déclarait.
Aujourd'hui, je pense que voilà, il n'y avait pas une équipe qui était meilleure. Ils ont eu la chance de mettre un but sur phase arrêtée, donc voilà, nous on n'a pas réussi à le mettre, donc c'est juste ça qui fait la différence aujourd'hui.
Et puis il y a également eu le gardien des Diables Rouges, Thibaut Courtois, qu'on écoute.
Je ne dirais pas que l'équipe en face était meilleure que nous. L'équipe en face a bien défendu avec 11 à 35 mètres du but, et ils ont fait ça tout le tournoi, donc et après ils ont mis contre l'Uruguay un but d'un coup franc, aujourd'hui un but d'un corner, et c'est dommage, mais bon, ça c'est le foot.
Voilà, gardien de but belge, Thibaut Courtois. Donc ici à Bakou, c'est quoi? C'est un peu de rancœur après le match d'avoir perdu,
bah
ou
oui,
ça arrive
oui.
souvent?
Non, mais ils sortent du match, ils sont dégoûtés, ils auraient pu passer en finale. Là, c'est vraiment en zone mixte, donc ils viennent de finir. Bon, ils l'ont pas vu le match, ils étaient dedans, donc c'est difficile à analyser pour eux. Je comprends qu'ils soient dégoûtés. Après, ben nous, ça nous fait un peu marrer de se dire bon, oui, c'est ça, ils sont très mauvais perdants.
C'est un peu de mauvaise foi, Eric Métou aussi.
Bah, si on regarde le match d'hier, il y a trois actions de classe, vraiment de classe. Il y a une passe de Griezmann qui est en rupture, qui est formidable. Il y a surtout la talonnade de Mbappé sur. Giroud qui aurait dû faire un but. Les actions de classe, elles étaient françaises hier. Après, jouer un match, faire ce que font très bien les Espagnols, c'est-à-dire se passer la balle, courir, faire des dribbles pour rien dans le vide, parce qu'ils ont couru dans le vide hier. C'est ça le problème de la Belgique. Et ils ont fini par se cramer physiquement. De Bruyne, on l'a pas vu parce qu'il était complètement éteint. Bah, c'est pas faire un bon match. Ils n'ont pas fait un très bon match hier. Ceux qui ont fait un très bon match hier, c'est les Français. Alors, ils ont fait un match exceptionnel contre les Brésiliens. Et je pense qu'hier, il y avait les deux meilleures équipes du tournoi. C'est dommage que ça arrive en demi-finale et pas en finale.
C'est ça. Oui, Emmanuel Fouron, il y a Kylian Mbappé, donc, qui est accusé d'avoir fait de l'anti-jeu, qui a déclaré, si je les ai offensés, je m'en excuse, mais moi, je suis en finale.
Ouais, voilà, okay.
c'est dur quand même. Non, mais c'est vrai que ça se chante quand même à un niveau. C'est vrai que on n'attendait peut-être pas, voilà, le fait d'être mauvais joueur. Mais on peut comprendre en même temps. C'est-à-dire qu'on s'entraîne pendant des années.
Je ne comprends pas comment vous puissiez encore dire qu'ils sont mauvais perdants. S'ils avaient été mauvais perdants, ils auraient dit la France ne méritait pas de gagner. Et aucun des joueurs n'a dit ça. Les joueurs ont dit, ils étaient évidemment dans l'amertume, mais ils disent on n'était pas moins forts. Ce que moi aussi, je pense profondément. Je pense aussi, de nouveau, vous avez une équipe réaliste. Elle a pas fait un spectacle. Les gens neutres en football ne sont. Voilà, c'était pas le Brésil, j'allais dire, mais le Brésil, on les a battus. C'est ça. Mais donc, on n'a pas vu. C'était pas le grand cirque footballistique, mais on a vu quelque chose d'organisé, de stratégique, et c'est ça qui a marqué les esprits.
Et surtout, ce qui était assez étonnant, on en parlait hors micro, c'était. Il y a finalement, quand on a regardé le match dans des bars ou ailleurs en famille, on n'entendait pas des insultes ou des cris comme on peut entendre à l'égard de la Belgique.
Mais c'est ça. Enfin, moi, je pense que la Belgique, au final, on les aime bien, les joueurs belges, et puis on les connaît bien en France. Il y en a qu'on joue en France. Puis on suit aussi beaucoup en France le championnat anglais. Il y a beaucoup de joueurs belges en Angleterre. Donc c'est pas une équipe qu'on a envie de détester comme d'autres équipes. C'est nos copains un peu les Belges. Donc oui, se retrouver contre eux en demi, c'est un peu dommage.
C'est pas de peau. Allez, dans un instant, on va continuer à parler justement de cette équipe de France, de sa jeunesse également et de cette donc troisième finale en 20 ans en Coupe du Monde. L'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
Syndicats et patronats veulent reprendre la main du dialogue social. 8 organisations se sont d'ores et déjà rencontrées aujourd'hui à Paris, montrer un front uni pour peser lors des discussions avec le gouvernement. Cette réunion intervient à quelques jours de la rencontre souhaitée par Emmanuel Macron avec les partenaires sociaux. Ce sera le 17 juillet. Avant cela, le président de la République et Vladimir Poutine se verront dimanche à Moscou. Emmanuel Macron entend profiter de sa présence pour la finale de l'équipe de France de football et rencontrer son homologue russe. Dimanche, c'est 24 heures avant la rencontre entre le président américain et Vladimir Poutine à Helsinki. Après le crash hier soir d'un hélicoptère en Côte d'Ivoire, le soldat français blessé est évacué vers la France. Il était le copilote de l'appareil de type Gazelle qui s'est abîmé. Le pilote, lui, est décédé. Les causes de l'accident restent à déterminer. Roger Federer éliminé en quart de finale par le Sud-Africain Anderson. C'était cet après-midi sur le gazon de Wimbledon. Il a pourtant 8 victoires à son actif dans ce tournoi. En ce moment, l'Argentin Del Potro domine Rafael Nadal 2-7-1. Et puis la promesse d'un retour à la normale demain à la SNCF sur la liaison Paris avec le Sud-Est. La circulation des trains reste perturbée jusqu'à demain matin, après l'incendie du début de semaine, près des voies ferrées de la gare de Marseille-Saint-Charles. Selon la SNCF, il faut réparer plus de 800 connexions électriques.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, spécial Coupe du Monde, spécial qualification de l'équipe de France, spécial de spécial. Enfin, on ne sait plus là où on en est tellement de se remettre de cette victoire. Et on va partir tout de suite à Moscou, rejoindre Jérôme Vallée, Franck Ballanger. Vous suivez pour nous le match Croatie-Angleterre. Où en est-on ?
Toujours 1-0 pour les Anglais. But inscrit dès la 5e minute de jeu par Kieran Trippier. Un coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Les Anglais qui ont plutôt bien négocié ce début de rencontre. Il a fallu attendre la 19e minute de jeu pour voir la première frappe croate.
Ah, les Croates qui imposent leur rythme technique, mais qui ont du mal dès l'approche du but de Jordan Pickford. Pour l'instant, eh bien, ce sont les Anglais qui réussissent la meilleure entame. 1-0 pour l'Angleterre. But de Trippier à la 5e.
Merci beaucoup Franck Ballanger, Jérôme Vallon, on vous retrouvera bien sûr pour suivre ce match. Alors à propos de la qualification de l'équipe de France, Lisa Bacon, est-ce que dans, par rapport à la France, à la Belgique, vous disiez ce sont des équipes, on se connaît bien, mais est-ce que dans cette Coupe du Monde, pour vous depuis le début, il y a eu un moment charnière pour ces deux équipes est-ce qu'il y a eu un moment où elles se sont véritablement révélées celui pour la France, on le connaît, ça a été contre l'Argentine. Pour la Belgique, c'était lequel?
Bah, la Belgique, ils ont fait une belle phase de poule, mine de rien. Donc, c'était, enfin, déjà, ils se sont mis en confiance.
Mieux que les Français en poule? C'était
bah, plus... Je pense que oui, c'était oui. plus abouti comme phase de poule. Et je trouve que le match contre la Belgique, contre le Brésil, pardon, la oui. Belgique s'est vraiment sublimée. Et là, a vraiment pu se donner confiance en disant oui, on peut aller au bout. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais...
et Bigot, c'est ça? Ce sont les deux matchs aujourd'hui qui
non, ont... moi, je pense non. que c'est le match contre le Japon. Ouais. Parce que mener 2-0 en début de deuxième mi-temps, totalement contre le cours du jeu. Mmh. Vous savez, depuis 1970, aucune équipe qui avait été menée 2-0 dans un match éliminatoire de Coupe du Monde, ne s'était imposé. C'était, et encore, c'était en prolongation, c'était l'Allemagne contre l'Angleterre qui a fini par gagner 3-2 en prolongation. Donc, ils étaient déjà dans l'avion, à 2-0 aux c'est alentours ça, ouais. de la 55e minute. Et là, d'un seul coup, le fait d'être capable d'abord de lâcher leur jeu, comme ils l'avaient déjà fait contre la Tunisie d'ailleurs, hein, au premier tour, c'est-à-dire de ne pas jouer prudemment, comme ils l'ont fait un peu trop hier, mais de se lâcher complètement, a fait qu'ils se sont trouvés. Et puis, vous savez, quand vous êtes miraculé comme ça, mais ça crée quelque chose d'absolument incroyable, une osmose entre les joueurs, entre y compris avec ceux du banc, parce que c'est le coaching qui les fait revenir, parce que c'est l'entrée de Fellaini qui amène de la puissance, et puis son jeu de tête hein, qui a fait beaucoup de mal aux Japonais, l'entrée de Nasser Chadli ouais. aussi. Donc c'est vraiment, c'est toute l'équipe qui a joué. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut remarquer, ce qui rend cette équipe des Diables Rouges par ailleurs aussi sympathique, et c'est que, à part les deux gardiens remplaçants, tout le monde a joué.
Mais c'est ça,
dans cette équipe.
Ouais, donc,
c'est la seule
ça crée, en
dans
effet,
cette
oui,
Coupe du Monde. Et on rappelle, ils ont battu l'Angleterre hein, en match de poule avec l'équipe B. C'est-à-dire qu'avec les remplaçants, ils ont battu l'Angleterre en 1-0.
C'est ça, Eric Métou. Quand on voit un tableau, finalement, l'équipe de France, on n'a pas eu une part facile aussi. Hein, parce que sur le papier, à la base, c'est vrai que les poules, bon, on se souvient tous, mais c'est marrant parce qu'on a un peu oublié ce match France-Danemark. D'un coup, là, ça n'existe plus.
Hein, c'est pas ce que c'était. Voilà. Encore plus, hein.
Je sais pas.
Mais est-ce c'est qu'on l'a joué?
Non, je crois pas, mais je sais plus.
Ah non, on l'a pas joué. Non,
et donc, il y a eu ensuite, sur le papier, donc l'Argentine, l'Uruguay et ensuite la Belgique. C'est vrai que la passe n'était pas facile quand même là, pour aller.
Ouais, alors, on peut dire ça. En même temps, on a joué ni l'Allemagne, ni l'Espagne, ni Portugal. Le Brésil, ni le Portugal qui nous avait battu il y a deux ans. Alors, je pense qu'il va falloir un petit peu de temps, mais c'est pas une Coupe du Monde exceptionnelle quand même. Je veux dire, les grandes équipes sont sorties avant. Il reste la Belgique, mais l'Angleterre et la Croatie sont pas. La Croatie, on a parlé, mais on les a vus jouer entre temps. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup parlé avant et on les a vus jouer après. Et en fait, ils jouent pas si bien que ça. C'est pas une équipe aussi formidable que ce qu'on a pu dire. Là, pour l'instant, je dirais pas que c'est une exceptionnelle Coupe du Monde. Les matchs sont pas d'un niveau extraordinaire, à part celui de la Belgique contre le Brésil, et peut-être celui de la France contre l'Argentine, mais plus d'un point de vue scénaristique.
Le match que tout le monde retient, en fait, c'était au premier tour, c'était Espagne-Portugal, en fait. Voilà, oui.
C'est voilà. Un match de 3 même Espagne-Portugal, ouais. Je veux dire, les Portugais marquent 3 buts de raccro, les Espagnols auraient dû gagner avec des kilomètres d'avance. Donc, il n'y a pas encore le match de référence, j'espère que ce sera en finale. Le seul, pour l'instant, qui est vraiment un match de référence, c'est la Belgique contre le Brésil, et aussi parce que la Belgique a gagné.
C'est ça, Emmanuel Foulon, pour vous, vous êtes Coupe du Monde. Alors ce soir, je vais pas vous demander est-ce qu'elle est bien, parce que forcément vous êtes déçu. Mais est-ce que ça manque de match de référence? Beaucoup de personnes disent, des observateurs disent, bah, tout le monde joue un peu de la même manière aussi. Dans le football aujourd'hui.
Oui, mais ça va être de plus en plus comme ça. Hein. On va jouer bientôt avec 48 nations, donc on sera fatalement dans le calcul. Vous êtes dans des matchs de groupe d'abord, où le premier match, l'objectif, c'est pas nécessairement de gagner, mais c'est de surtout pas perdre. Le dernier match, comme la France l'a fait contre le Danemark, bah, moi, j'ai aucun problème avec le fait que la France ait refusé le match, parce que les Danois étaient totalement d'accord avec ça, mais ils ont tous les deux calculé. Ouais. Donc la phase de groupe, finalement, avec des groupes assez, il n'y a eu qu'un seul groupe où c'était vraiment intéressant, c'est précisément le groupe de Japon. Et là, d'ailleurs, les audimates, de manière générale, ont augmenté. Parce qu'il y avait du suspense, parce que tout le monde pouvait se qualifier au dernier match. Mais sinon, les autres groupes étaient pliés très, très vite. Donc, ça a baissé l'attractivité. Et on est de plus en plus, ça ne date pas de cette Coupe du Monde-ci, on est de plus en plus dans le calcul. Et donc, on voit de moins en moins de spectacles. Et je voudrais dire quand même, on dépeint une peinture un peu négative. Je reviens avec ça peut-être aussi en tant qu'ancien arbitre. Mais il y a le VAR qui lui
alors,
a fait son arrivée.
Alors, le VAR, c'est l'arbitrage vidéo.
C'est l'arbitrage vidéo. Et on pourra encore disserter si vous voulez après là-dessus. Bah bon, ouais. Mais ça reste pour moi une des plus grandes avancées. Et la vedette de ce mondial, c'est clairement l'arbitrage vidéo.
C'est pour vous, Laetitia Bacon, ça a apporté un plus justement dans cette Coupe du Monde?
Alors, pour être allé à France-Australie, c'était horrible. Quand on est au stade, c'est vraiment horrible d'arrêter comme ça, de pas savoir ce qui se passe ou pas. Bon, c'était plutôt favorable aux Français, donc c'était quand même pas mal. Mais de toute façon, l'erreur, elle va rester humaine. C'est une question d'interprétation, donc c'est pas une science exacte. Ça peut pas apporter une réponse claire et précise. Ça ne le pourra jamais. Je sais pas si c'est une très très bonne avancée, moi.
Allez, on va continuer à en parler, notamment de l'équipe de France. On va s'intéresser aussi au match de notre adversaire. Alors, est-ce que ça sera la Croatie? Est-ce que ça sera l'Angleterre? On suivra ce match. Voilà, bon, les informés qui ont mis le short ce soir, hein, spécial Coupe du Monde et finale. Je vous rappelle, ça sera dimanche et au moins il y a la France à 17h. Voilà la suite du programme des informés de France Info.
C'est Vulco. Pour mon entretien auto, c'est Vulco.
Pour les prix et pour les pros, c'est Vulco.
Pour profiter d'une promo, c'est Vulco.
En ce moment, chez Vulco, cumulez les avantages. Pour l'achat de pneus Dunlop ou Goodyear, jusqu'à 120€ remboursés et jusqu'à 40€ offerts en carte carburant. Avec Vulco, roulez au meilleur prix. Détails dans les points de vente et sur Vulco.com. Offre soumise à condition.
De et entretien auto, c'est Vulco.
Suite à un sondage réalisé par le magazine Capital, Vulco a obtenu le label Meilleure Enseigne 2018 dans la catégorie Centre-Auto Garage Pneumatique. Restez connectés à France Info.
Toute l'actualité, des alertes, des vidéos avec l'application mobile
France Info.
France Info Météo avec CIC et vous, pour ne pas avoir à choisir entre l'humain et le digital. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Encore une journée calme demain. On trouvera des nuages et de belles éclaircies entre la Normandie, le bassin parisien, le Nord et le Grand Est. Les nuages seront plus nombreux le matin près des frontières du Nord. Entre le Sud-Ouest, le Languedoc-Roussillon, le Massif Central, là aussi des passages nuageux, parfois inondés. Encore une belle impression malgré tout. Il faudra composer avec quelques orages sur la côte aquitaine, sur les Pyrénées. Partout ailleurs, la journée sera encore très largement ensoleillée. Les températures évolueront peu, petite hausse ici ou là. Le matin, 11 à 16 degrés au Nord, 13 à 22 au Sud. L'après-midi, il fera 23 à 26 degrés près de la Manche, 26 à 29 sur les autres régions du Nord, avec 28 à Paris, Angoulême et Auxerre. Dans le Sud, un cran au-dessus, 27 à 34 degrés, 31 à Valence, Toulouse, Montpellier, Ajaccio, 33 à Marseille et 34 à Nîmes.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Augustin Rivé, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. La Coupe du Monde de football, deuxième demi-finale ce soir, ce sont les Croates face aux Anglais. Ça a commencé très vite à Moscou, ouverture du score de l'Angleterre en tout début de match. Et Jérôme Val, ça a encore chauffé à l'instant devant les cages croates.
Oui, 1-0 pour les Anglais qui ont bien failli doubler la mise à la demi-heure de jeu ici à Moscou par Harry Kane, le meilleur buteur de ce mondial. 6 buts pour l'instant, il a failli marquer son 7e, mais il a buté une première fois sur le gardien croate Daniel Subasic et une deuxième fois quand il a repris ce ballon sur le poteau. L'ouverture du score était, elle, signée Kieran Trippier dès la 5e minute de jeu. Superbe coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Un but qui ont pensé aller lancer ce match. Match très équilibré pour l'instant, même si les Croates ont du mal quand même à se créer de belles occasions. En tout cas, après 31 minutes de jeu, bientôt ici à Moscou, toujours 1-0 pour les Anglais.
Merci Jérôme Val, et le vainqueur évidemment affrontera la France. Faut-il rappeler l'horaire? Ce sera dimanche à 17h. Le tenant du titre éliminé à Wimbledon, le tennisman suisse Roger Federer, sorti en quart par le sud-africain Kevin Anderson. Qualification pour les demi-finales du Serbe Novak Djokovic, et Juan Martin Del Potro est bien parti pour le rejoindre. Il mène 2-7 à 1 face à Rafael Nadal. Tandis que sur le Tour de France cycliste, c'est toujours le Belge Greg Van Avermaet qui porte le maillot jaune. Et l'étape de ce mercredi a été remporté par le Slovène Peter Sagan. C'était à Quimper dans le Finistère. Le sommet de l'OTAN à Bruxelles avec Donald Trump qui propose de doubler le montant des contributions financières des pays membres. Finalement, il a été décidé de s'en tenir aux engagements de 2014, à savoir que chacun délivre l'équivalent de 2% de son PIB. Les États-Unis ont promis de s'y tenir et par ailleurs une proposition a été officiellement lancée en direction de la Macédoine pour qu'elle rejoigne l'alliance militaire. Un mouvement de grève inhabituel en Italie. Les employés d'une usine usines Fiat de la ville de Melfi cesseront le travail entre dimanche soir prochain et mardi matin. Action symbolique pour protester contre le transfert du footballeur Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin. Le club appartient au même groupe et les ouvriers de cette usine considèrent que le montant du transfert est insultant au regard de leur faible salaire. Après l'OTAN, Emmanuel Macron sera en Dordogne ce soir, un déplacement qui continuera demain pour parler des services publics en zone rurale. Ce sera aussi l'occasion pour le président de la République de dévoiler le nouveau visage de la Marianne qui figurera sur les timbres. La précédente date de 2014. François Hollande avait à l'époque choisi le visage d'une militante fémène. Le jugement contre Jean-Vincent Placé mis en délibéré au 10 septembre. Le procureur a requis aujourd'hui 6 mois de prison avec sursis, 1 000 euros d'amende et 2 années de mise à l'épreuve avec une obligation de soigner son alcoolisme. L'ancien secrétaire d'État avait été interpellé en état d'ivresse dans un bar parisien en avril. Il est poursuivi pour violence et injures raciales contre une cliente et pour outrage à agent. La suite des informés maintenant, c'est toujours avec Jean-Mathieu Pernin jusqu'à 21h. Il est 20h33 sur France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec les hashtags Les Informés et sur le canal 27 de la TNT. Et eux, c'est à peine remis du match d'hier qu'ils sont venus faire des jongles avec l'actualité. Ce soir, Les Informés de France Info reçoivent Eric Métou de L'Express, également Lucie Bacon, rédactrice en chef de Football Story, Yves Bigot, PDG de TV5 Monde, Emmanuel Foulon, qui s'occupe de la délégation PS belge au Parlement européen, qui est là un petit peu, pour essayer de trouver des amis, en fait, ce soir, essayer de se réconforter par rapport au match d'hier soir. Dimanche, nous verrons bien d'ailleurs si la France gagne en finale et on espère vraiment, car enfin on pourra se débarrasser de I Will Survive qui illustre tous les reportages sur l'épopée de 98. D'ailleurs, on ne sait pas quelle chanson fétiche, c'est vrai, des Bleus cette année. Alors voyons voir, moyenne d'âge, c'est l'équipe 25 ans. Très connecté, en plein dans son époque. À mon avis, ils doivent adorer Félicie aussi, de Fernandel, peut-être, ça doit être ça. C'est en effet ce qui prime une vraie équipe, un vrai collectif, à tel point qu'on a du mal à sortir même une individualité de cette équipe. Ça, c'est le travail de Didier Deschamps, le nouveau héros français, mais il a de qui tenir, selon l'ancien international Alain Giresse.
Il a été à l'école, et à l'école d'Aimé Jacquet, c'est les mêmes personnages comme entraîneur. Beaucoup de rigueur, beaucoup d'autorité, de sachant parfaitement gérer ses joueurs et surtout leur donner la possibilité d'atteindre des objectifs. C'est Aimé Jacquet leur avait dit, souvenez-vous, mais vous voulez gagner la Coupe du Monde, ben voilà ce qu'il faut faire. Et Didier Deschamps, il leur martèle la même chose en disant, mais attendez, si vous voulez gagner la Coupe du Monde, voilà, c'est comme ça. Hein, vous allez me suivre, vous allez suivre mes directives et c'est comme ça que vous pourrez y arriver, vous, parce que moi, je vais vous donner moyen d'y arriver.
L'ancien international français consultant pour France Info, Alain Giresse. Éric Métou, ça y est, il est critiqué au début. Il est accepté maintenant, Didier Deschamps, totalement. Là,
vous
ça
le disiez, il y a 60 millions de sélectionneurs, il y a 60 millions de râleurs, surtout en France. Ouais, de toute façon, à partir du moment où il commence à ne pas jouer exactement et à gagner tous les matchs comme il devrait, ça grogne. Mais Didier Deschamps, il faut se souvenir quand même que si la France n'avait pas raté sa finale, qui était vraiment le match à ne pas rater et qu'ils n'auraient jamais dû rater en Coupe d'Europe, là, ils pouvaient faire le doublé, c'est-à-dire contre le Portugal, ils pouvaient faire 2016-2018, ce qui est quand même, pour un entraîneur et une équipe, mais pour un entraîneur, c'est exceptionnel. Il a fait taire tout le monde. Alors, ce qui est assez drôle aujourd'hui, c'est d'entendre les commentateurs qui mangent leur chapeau un peu partout. Il y a beaucoup de radios qui font du talk comme sport, qui ont été d'une méchanceté avec Didier Deschamps et qui aujourd'hui le portent au pinacle. Il faudrait réécouter ce qu'il disait il y a 3 mois.
On se souvient d'Aimé Jacquet quand même à la finale. On lui demande, exactement, vous pardonnerez, il dit non, jamais. Enfin, c'était quand même, on sent bien que c'est quand même
plus
dur.
C'était beaucoup plus violent.
C'est vrai que Didier Deschamps, aujourd'hui, quand on entend Alain Giresse, pour vous, quand il le compare à Aimé Jacquet, est-ce qu'on est à peu près le même genre d'homme et finalement la même structure ou pas d'entraînement?
Jacquet n'avait pas tout à fait le même statut en 98 parce que là, Deschamps, il a gagné lui la Coupe du Monde il y a 20 ans, donc c'est un autre statut dans l'équipe, il l'a déjà fait, donc il peut apporter vraiment une autre expérience aux joueurs, je pense. Mais médiatiquement, en attendant, c'est vrai que la comparaison peut se tenir, même si c'était beaucoup plus violent, je pense, il y a 20 ans et que les médias ont appris de ce moment-là. Mais dans le groupe, c'est difficile de savoir quelles sont les différences, mais il y a un autre statut pour Deschamps, je pense, que Jacquet avait, lui, en 98.
Ouais, Yves Bigot,
Deschamps, c'est le plus beau palmarès du football français comme joueur. C'est ça qu'il faut garder en tête, surtout. Et là, ce qu'il a fait, je trouve, de plus remarquable, c'est ses deux latéraux. Pavard et Hernandez.
Ah oui, oui, Pavard.
Deux trouvailles absolument formidables, pas du tout évident. Alors tout le monde qui les trouve absolument géniaux. Oui, bien sûr. La plupart du temps, personne ne les connaissait.
Ils changeaient de système toutes les semaines. Et alors ça, personne.
C'est les deux noms d'ailleurs, Yves, quand on dit Umtiti et Pavard. Hein, c'est là de.
Mais qui connaissait Pavard, qui regardait les matchs du VfB Stuttgart en Bundesliga il y a encore quelques mois, et même Lucas Hernandez à l'Atlético Madrid, tout le monde, d'abord la plupart des gens savaient pas qu'il était français, on pensait que c'était un espagnol, un argentin, etc. Donc ça, c'est une trouvaille formidable, et je pense que le fait d'avoir fait confiance à la jeunesse. D'ailleurs, on voit, c'est le principal enseignement de cette Coupe du Monde, finalement, c'est la jeunesse. Parce que si l'Angleterre se qualifie et joue la finale contre nous, ce sera les deux équipes à la moyenne d'âge la plus jeune des 32 images au départ, des 32 équipes au départ qui se retrouveront en finale. Donc ça, ça veut vraiment dire quelque chose.
Emmanuel Foulon, alors il y a quelque chose aussi, c'est que si la France gagne, Didier Deschamps pourra intégrer le cercle très fermé des personnes ayant remporté la Coupe du Monde à la fois comme joueur et entraîneur. Il y en a deux autres pour l'instant, c'est le Brésilien Mario Zagallo et l'Allemand Franz Beckenbauer. Donc on imagine que c'est une consécration ultime. Alors là, c'est la réussite totale en matière de sport.
Totalement. En plus, pour moi, c'est l'homme du match hier contre la Belgique. C'est l'homme du mondial. Parce qu'en plus, il a ce pouvoir sur les joueurs. Il arrive à faire quelquefois déjouer, à faire jouer les joueurs contre nature, à les cadrer. Certains, on sait bien que, vous avez un talent individuel incroyable. Mais certains acceptent d'être sous les tenoirs, justement, pour accepter les consignes de l'entraîneur. Et ça, c'est fou. Et on parlait tout à l'heure du respect entre la Belgique et la France. Il faut savoir que, par rapport à Aimé Jacquet, l'entraîneur belge qui s'appelle Martinez a été considéré comme le Aimé Jacquet belge, parce que juste avant le début du mondial, il ne qualifie pas Nainggolan, qui est une star absolue dans le championnat italien à la Roma. Et il y a eu une levée de bouclier, mais comme vous n'imaginez pas, exactement comme en 98, levée de bouclier des Français par rapport à Aimé Jacquet. Et force est de constater qu'il les a mis de côté et il est arrivé en quart de finale. Donc je pense que hier, c'était vraiment les deux meilleurs entraîneurs du championnat qu'on vient d'assister. Et d'ailleurs, la faillite du Brésil de l'Argentine, c'est la défaite aussi de leurs entraîneurs qui n'ont jamais trouvé l'alchimie dans leurs équipes respectives.
Et puis surtout, il y a eu cette image qu'on attendait, Eric Bétou, c'est Thierry Henry, Didier Deschamps. Ouais. C'est marrant, 20 ans après, l'un contre l'autre finalement, même si aujourd'hui, il n'a pas le même poste.
Il y a deux images, il y a celle-là et puis il y a celle de Ronaldo qui a fait sortir, je ne sais plus quel joueur...
Contre qui
était blessé.
Oui, tout à fait. Bien sûr, on va le trouver.
Donc, il y a une image de fraternité aussi.
Une
très belle image aussi. Et ça, c'était assez formidable. Mais c'est Deschamps. Alors, moi, la différence avec Jacquet, c'est que Jacquet, c'était un Deschamps, c'est un taiseux, mais c'est un taiseux qui a de la gueule. Jacquet, c'était un taiseux. On le voit très bien. Moi, il y a une image qui m'a marqué hier avant le match contre la Belgique, et il fait ça depuis très longtemps. Il a pris Pogba. Comme ça, entre quatre yeux, c'est viens voir mon grand Pogba qui doit pas être un type facile, qui a du caractère, qui pourrait avoir dérapé comme plein d'autres joueurs de ce genre-là, qui gagnent des fortunes, etc. C'est lui qui l'a recadré, Pogba. Il a parlé très longtemps avec lui. C'est lui qui en a fait le patron de l'équipe de France. Et je pense qu'il est beaucoup plus proche de ces joueurs que Jacquet l'aimait. L'était,
ouais.
À l'époque.
On va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h40. Stéphane Milhomme.
Les pays de l'OTAN s'engagent sur les dépenses militaires. Les dirigeants décident aujourd'hui à Bruxelles d'atteindre les objectifs de dépenses fixés il y a 4 ans, c'est-à-dire chaque État membre consacrera d'ici 2024 au moins 2% de son produit intérieur brut à son budget défense. Et encore, Donald Trump en réclamait le double. L'ouverture d'une information judiciaire après la mort de la jeune femme qui avait appelé le SAMU de Strasbourg, Naomi Moussenga, décédée en décembre dernier, faute d'avoir été prise au sérieux par l'opératrice. Cette procédure sera ouverte d'ici quelques jours pour non-assistance à personne en péril et homicide involontaire contre X. L'État soutiendra la reconstruction de la médiathèque de la Courneuve. La promesse cet après-midi de Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, annonce un soutien financier alors que le bâtiment a été ravagé par les flammes fin juin après une attaque à la voiture Bélier. L'Angleterre mène 1-0 sur la Croatie. Le vainqueur rencontrera la France dimanche en finale de la Coupe du Monde de foot. L'autre demi-finale, c'est à suivre ce soir sur France Info. Peter Sagan remporte la 5e étape du Tour de France au sprint à Quimper. Sa 2e victoire d'étape pour cette édition 2018. Victoire du Slovaque au sprint sur 205 km. Le Belge Van Avermaet conserve, lui, le maillot jaune de leader.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Tiens, spéciale Coupe du Monde, mais comment ça se fait? Ah bah oui, la France est en finale. Hein. Hier, nous avons gagné face à la Belgique 1-0. Peut-être êtes-vous au courant, je ne sais pas. C'est vrai, alors nous étions en train de parler de Didier Deschamps, cet entraîneur aujourd'hui emblématique de la réussite de cette équipe. À Moscou, on rejoint Jacques Vendroux. Jacques, tout à l'heure, une phrase a été dite par un de nos invités. C'est Didier Deschamps, hier, était l'homme du match. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, mais il est l'homme de match. Il est l'homme du match depuis le début de la Coupe du Monde. Il est omniprésent. J'ai entendu les différents débats avec vos invités. Ils ont, je pense qu'en grande partie, ils ont raison. Didier Deschamps, on parlait depuis le début de ce championnat du monde. Qui est le leader sur le terrain? Qui peut être le relais de Didier Deschamps, comme Deschamps était le relais d'Aimé Jacquet en 1998? Eh bien, le relais de Didier Deschamps, c'est Didier Deschamps, tout simplement.
Oui.
Il est partout. Et vous l'avez bien signalé, il s'occupe de tout, il est omniprésent, il contrôle tout, il choisit ses adjoints, il choisit les kinés, il choisit les médecins, il met une pression incroyable. Vous voyez, par exemple, là, il a donné 24 heures à ses joueurs. C'est déjà énorme pour lui, parce qu'il n'aime pas trop ce genre de situation. Il les a repris en main ce soir, il les a mis à 10 pas, et il leur a dit, bon, maintenant, on va être champion du monde dimanche soir, on va travailler nuit et jour.
D'accord, ah oui, donc c'est assez précis. Une chose, Jacques,
C'est très clair.
En effet,
vous savez, Aimé Jacquet, en 1996, il a convoqué les joueurs après un championnat d'Europe où on avait été éliminé en demi-finale. Jacquet les convoque et leur dit, vous savez quoi? Non. On va être champion du monde en 98. Ah bon, vous êtes sûr, Aimé? Oui, je suis sûr. On va être champion du monde en 98 à une seule condition, c'est que vous m'écoutez.
Ouais, c'est ça, oui. Donc ça veut dire véritablement c'est la discipline qui fonctionne toujours. On
la
comprend pourquoi certains joueurs n'ont pas été pris.
Mais bon, ouais, c'est du sérieux, voilà.
Oui, c'est du sérieux, Jacques.
C'est costaud.
Voilà. Une dernière chose, Jacques Vendroux, vous suivez bien sûr pour nous cette Coupe du Monde depuis le début. Qu'est-ce que vous en dehors des Bleus qui sont qualifiés en finale, donc forcément c'est une grande Coupe du Monde. Mais qu'est-ce que vous en pensez vous des matchs, voilà, que vous avez pu voir les différents matchs. C'est une grande Coupe du Monde pour vous, pas?
Oui. Moi, je me suis pas ennuyé. Franchement, je me suis pas ennuyé. Bon, il y a eu des mauvais matchs. Il y a eu des matchs moyens, il y a eu de très très bons matchs. Ça fait partie du film de toutes les coupes du monde de football. Moi, ce que je retiendrai, franchement, alors après c'est un long débat où c'est pas du tout de mon niveau, c'est la Coupe du Monde réussie par Vladimir Poutine. Elle est réussie. On peut penser ce qu'on veut, elle est réussie. Les stades sont pleins. Il n'y a pas de problème de transport, il n'y a pas de problème d'avion, il n'y a pas d'embrouille. Les supporters, vous savez, qui sont extrêmement dangereux et qui ont mis la pagaille du côté de Marseille.
Ils
ont été invités à passer quelques jours en Sibérie, au calme, tranquille, sans histoire. Comme ça, ils se reposent, etc. Ils font un petit break, ils se remettent un petit peu en question.
Bon, de 20 ans, le break, voilà. Mais bon, c'est ça le problème.
Et puis, vous savez, il y avait beaucoup, malheureusement, de mendiants dans cette ville de Moscou, il y en a pas un. Je sais pas où ils sont passés, mais il y en a pas un.
Bon, en tout cas, c'est ce qu'on retiendra. Merci beaucoup, Jacques Vendroux. Il y a aussi une question, Yves Bigot, concernant la France. C'est la troisième finale en 20 ans. On a fait 98, on a fait 2006, on fait 2018. Vous qui suivez le football depuis un certain temps, pourquoi ça arrive finalement dans ces 20 ans-là et jamais avant? Qu'est-ce qui s'est passé dans le football français? Est-ce que on s'est modernisé? Est-ce que c'est les joueurs qui jouent mieux? Qu'est-ce qui s'est passé en fait?
Et c'est parce qu'on est devenu un pays de football, ce qu'on n'était pas. Et puis parce que au-delà de ça, la pratique du sport en France s'est démocratisée, parce que ça n'était pas le cas avant. Le sport, il faut se souvenir que c'était un sport dans les pays anglo-saxons.
Oui.
En France, vous aviez 2 heures de gym par semaine, où on faisait monter à la corde.
Comme la musique, en fait. Hein, c'est comme la musique.
Exactement. C'est ça, mais exactement. C'est simplement que la France est rentrée, on va dire, dans le concert international des nations. Parce que quand même, on a vécu des moments, mais où on était navré, quoi. Je veux dire, moi, je me souviens d'un match de qualif, ça devait être en 72 ou quelque chose comme ça. On perd 1-0 contre la Norvège à domicile, quoi. Le premier match de éliminatoire, on dit, mais. Et on n'y va pas. Enfin, je veux dire, on était navré quand même. J'étais trop jeune pour 1958.
Oui, hein, bien sûr,
c'est le premier, exploit
c'est ça,
de l'équipe de France. Mais jusqu'à la génération Platini, donc la génération 78 et puis après qui brille en 82, en 86, on est tout simplement navrant. C'est-à-dire là on prend des pilés contre la Belgique. Je vous dis, on se fait battre à domicile par la Norvège. Non mais voilà, c'est simplement le sport s'est démocratisé en France, la pratique quotidienne, je veux dire donc profonde pour tout le monde, et puis surtout le foot c'est professionnalisé et la France a commencé à prendre le football aussi au sérieux. Mais ça, c'est au niveau des clubs, c'est aussi au niveau du football.
C'est tout un travail, en fait, de fond.
Non, mais bien sûr, c'est le football amateur aussi, etc.
Pourquoi je vous appelle C'est ça, Lucie, pardon. Lucie, donc pour vous, là, par contre, non, vous n'êtes pas d'accord.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on a encore une énorme marge de manœuvre à faire en France là-dessus, sur la formation. Et je pense qu'en fait, ce qu'on a là, en ce moment, c'est surtout qu'on a une génération que d'autres pays ne peuvent pas avoir et n'auront peut-être jamais. C'est-à-dire qu'on a intrinsèquement des joueurs hyper doués au-delà de la formation.
Mais on voit que ça se répète.
Certains ne sont
même
pas formés en France. Oui. La formation anglaise ou espagnole est meilleure, je pense, que les clubs français. Des joueurs comme Griezmann, qui est le meilleur joueur français, je pense, aujourd'hui, il n'est pas du tout formé en France. D'ailleurs, en France, aucun club le voulait. Donc, je pense qu'au-delà de la France, qui n'est pas encore tout à fait pour moi un pays de foot, quand on voit les réactions de certains qui ne trouvent pas ça normal que les gens se félicitent d'une victoire en demi-finale, je ne pense pas qu'on soit devenu un pays de foot, mais je pense qu'on a juste une génération il faut profiter, et on s'en rend compte quand on les voit chacun dans leur club, ils sont exceptionnels.
Yves Bigot.
Alors, vous avez tout à fait raison. On n'est pas un pays de foot comme l'est l'Italie, comme l'est l'Espagne, comme l'est l'Angleterre, comme le sont évidemment les Sud-Américains ou l'Allemagne. Mais en revanche, on est beaucoup plus un pays de foot qu'on ne l'était
dans
les années 60 et 70. C'est ça qui a changé. C'est-à-dire, on est, si vous voulez, on est juste après. On serait en deuxième division des grands pays de foot. Et si on gagne la finale dimanche, et on va la gagner, hein, on va commencer
on monte
à...
On va commencer à monter en cran. Justement pour savoir...
si on a gagné deux Coupes du Monde, on rejoint l'Argentine et l'Uruguay, hein,
Pour savoir qui nous allons affronter, bien sur place à Moscou, nous avons Franck Ballanger et Jérôme Val. Messieurs, c'est la mi-temps dans le match.
Oui, la mi-temps. Et la Croatie qui est menée 1-0 par l'Angleterre dès la cinquième minute. Un magnifique coup franc à l'entrée de la surface de réparation de Trippier pour l'Angleterre. Donc 1-0. Et honnêtement, pas grand chose à se mettre sous la dent. Beaucoup d'erreurs techniques. Et on ne voit pas laquelle de ces deux équipes pourrait inquiéter l'équipe de France.
Même si l'Angleterre a eu quand même deux occasions, on va dire assez franches, à la demi-heure de jeu. Kane qui est dans la surface de réparation. Harry Kane, le buteur de cette équipe, qui n'arrive pas à deux reprises à mettre ce deuxième but. Et il y a eu six minutes plus tard, Lingard qui était seul dans la surface de réparation et qui a trop croisé sa frappe qui était partie à droite des buts. Mais c'est vrai que pour l'instant, même si les Anglais mènent 1-0, le sort de la finale contre qui les Français vont-ils jouer, mais n'est pas encore scellé. Les Anglais ont un petit avantage, mais attention quand même aux Croates.
Merci beaucoup messieurs, on aura l'occasion bien sûr de vous retrouver tout au long de la soirée pour connaître enfin l'adversaire de l'équipe de France dimanche. Éric Métou, vous vouliez rajouter par rapport à l'équipe de France?
Je pense que c'est plus que le foot, c'est le sport. Il faut quand même se souvenir qu'entre temps on a eu des champions à répétition en handball, on a des basketteurs qui font le bonheur de la NBA aux États-Unis, on a eu une génération une tradition. On a une génération de nageurs aussi, par exemple, qui a rapporté un nombre de médailles phénoménal, des athlètes, et la France s'est éveillée au sport à la fin des années 80, en même temps qu'elle s'est éveillée au foot. C'est plus large que le football. Et c'est pour ça aussi que ça, à mon avis, ça ne s'éteindra pas. C'est pas simplement une génération, c'est une génération qui se renouvelle. On a eu Platini, on a eu Zidane, aujourd'hui on a Pogba et Mbappé. Ça va continuer. Enfin, faut espérer que ça va continuer.
Voilà, on a l'impression. Alors, sauf dans le tennis où on était bon dans les années 80.
Au rugby. Mais par exemple, le sport où on a complètement dégringolé, c'est et peut-être qu'il devrait s'inspirer des autres sport collectif, c'est le rugby.
C'est le rugby, exactement. Allez, on va continuer à parler de ça dans un instant. L'info à 20h50, Stéphane Milhomme.
Les députés rejettent l'inscription dans la Constitution du droit à la contraception et à l'IVG. Des élus centristes de l'UDI, mais également de la France Insoumise, souhaitaient cette précaution dans le préambule. Mais la garde des Sceaux refuse cet après-midi. Nous avons, dit-elle, un droit suffisamment garanti, reconnu par le Conseil constitutionnel comme une composante de la liberté de la femme. Parce qu'il est soupçonné de fraude fiscale, Thierry Soler voit son immunité parlementaire levée. Le député de La République En Marche des Hauts-de-Seine souhaiter cette levée pour pouvoir être entendu par la justice. Le suspect du meurtre de Sarah Halimi n'était pas conscient de ses actes au moment des faits. C'est ce que révèle une seconde expertise psychiatrique de cet homme accusé du crime de la septuagénaire juive à Paris l'année dernière. En clair, il ne serait pas accessible à une sanction pénale. La juge demande aujourd'hui une troisième expertise. C'est en ce moment à Wimbledon, le quart de finale entre l'Argentin Del Potro et Nadal l'Espagnol. Nous sommes dans le cinquième set, 2-7 chacun pour l'instant. Le tenant du titre
Roger Federer a été, lui, éliminé en quart de finale par le Sud-Africain Anderson. Novak Djokovic, lui, part bien en demi-finale. Et puis la suite du feuilleton des Vélib à Paris. Il y aura 800 stations opérationnelles à la fin du mois d'août. 10 000 vélos, 3 000 vélos électriques. C'est la promesse du prestataire Smooth & Go aujourd'hui. Avec une montée en puissance attendue à l'automne, il entend mettre un frein à l'accumulation de bugs depuis sa reprise du service de location de vélos en janvier dernier.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info depuis hier soir. Une seule question, aurais-je assez de batterie dimanche pour appeler tous mes amis lorsque l'équipe de France va gagner cette Coupe du Monde? Mais contre qui? C'est justement le match, bien souvent, c'est la mi-temps entre la Croatie et l'Angleterre. Alors, Emmanuel Foulon, c'est quand même deux équipes qui provoquent, on le sait, en Russie. Alors juste, alors là, ce qui dépasse le football, des réactions un peu tendues en Russie, parce qu'il y a un joueur croate en éliminant la Russie qui a dédié sa victoire à l'Ukraine et qui s'est fait renvoyer quand même d'informations. Et il faut savoir que sur place, il n'y a aucun officiel anglais n'est présent en raison de l'affaire Skripal. On sent que ça va être sympathique quand même en finale. Mais juste une question sur l'Angleterre. Parce que forcément, quand on ne s'y connaît pas trop en football, ça peut être le cas de quelqu'un ici, je ne sais pas, ça faisait 28 ans que l'Angleterre n'avait pas atteint ce stade de la compétition. Et pourtant, c'est la première équipe qu'on cite, forcément, parce qu'on se dit c'est eux qui ont inventé. Est-ce qu'il n'y a pas un fantasme toujours autour de l'équipe anglaise?
C'est un peu le berceau du football, donc évidemment on s'imagine que, il faut quand même savoir que ça fait 20 ans qu'ils ne font absolument plus rien, mais c'est la première fois aussi qu'on a une équipe aussi jeune, avec un coach qui laisse ses jeunes jouer, qui a vraiment travaillé de nouveau toutes les stratégies, et qui, un peu comme Deschamps, leur a poser un carcan, une grille de lecture sur le match, et il est hors de question pour ces joueurs d'en sortir. Et je pense que, vu qu'ils n'avaient avant, ils n'étaient pas très sérieux, pour être tout à fait honnête. D'accord. Ils n'ont jamais été aussi sérieux, tout en étant toujours quand même britanniques, mais ils n'ont jamais été aussi sérieux sur le terrain qu'ils ne le sont maintenant. Et c'est vrai, vous l'avez annoncé, mais il y a évidemment une dimension politique ici par rapport à la Russie. Je pense que Poutine aurait préféré jouer les Anglais pour les humilier en demi-finale. Mais lui aussi, il a réussi sa Coupe du Monde, parce qu'on parle des Anglais, mais s'il y en a bien qui a réussi sa Coupe du Monde, c'est bien Poutine.
Et d'ailleurs, à propos de ça, Emmanuel Macron, qui sera présent dimanche à la finale, s'entretiendra avec le président russe juste avant, pour parler justement des affaires courantes, où c'est là où ça rejoint la politique. Éric Métou, on assiste apparemment à un match, on le vit depuis tout à l'heure, qui n'a pas l'air extraordinaire, même si les Anglais mènent. C'est-à-dire quoi? C'est des équipes faibles ou fatiguées là?
L'Angleterre est pas enthousiasmante, C'est des jeunes, mais c'est pas les jeunes français quand même. Et c'est des jeunes qui étaient tout aussi prometteurs. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. La génération anglaise a poussé en même temps que la jeune génération française. Simplement, eux, ils n'ont pas éclos. Alors, ils n'ont pas éclos. Après, il y a tout le débat sur l'Angleterre et un puits d'argent sans fond. Le football anglais est puits d'argent sans fond, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des centaines de millions d'euros par mois. Résultat, ils achètent que des joueurs étrangers, des stars, et ils font pas pousser leurs propres joueurs, les clubs anglais. Alors, sauf Tottenham, qui est extrêmement bien représenté dans l'équipe de anglaise cette année, qui a une autre politique, mais les grands clubs anglais, les Manchester, les Chelsea, les Arsenal, qui étaient entraînés par un entraîneur français et qui était le club le plus cosmopolite du monde, quand vous faites pas jouer vos joueurs en équipe nationale, ça marche pas.
C'est quelle est l'équipe la plus dangereuse pour l'équipe de France?
Franchement, alors il y a quelques jours, j'aurais dit la Croatie, mais ils ont des prolongations dans les pattes et ils sont un peu fatigués, les pauvres. Là, je crois qu'on le voit sur ce match-là.
Ouais.
Et donc, c'est vrai que le milieu de terrain de la Croatie est hyper fort, donc il fait très très peur. Mais les Anglais physiquement sont aussi très forts. Donc,
est-ce qu'elle vous étonne cette équipe anglaise, ou finalement on se dit non, c'est sa place là en demi-finale de Coupe du Monde?
Elle m'étonne pas, mais c'est plus la Croatie là sur ce match-là qui m'étonne un peu. Mais c'est vrai qu'ils sont fatigués en phase de poule. Ils ont vraiment été énormes, notamment contre l'Argentine. Mais donc du coup, je m'attendais à mieux de la part de la Croatie ce soir. Mais les Anglais, il y a pas de chance en Coupe du Monde là. Tout le monde mérite sa place, je pense.
D'accord. Donc la preuve que c'est une question de gestion, parce que les Croates ont joué à mort leur troisième match comme si leur vie en dépendait. On parlait tout à l'heure des Français qui contre le Danemark étaient un peu dans un transat, mais l'énergie qui a été sauvegardée à ce moment-là, elle sera utile jusqu'au bout. Tandis que vous avez des Croates cramés, déjà après 60 minutes contre les Russes, il y avait plus personne parce qu'ils n'ont plus de jambes. Et on a beau avoir des Rakitic, Perisic et Modric, même Modric, pour moi, il fait une Coupe du Monde moyenne malgré un talent infini. Ils sont tous fantastiques, si je peux dire. Mais c'est aussi, en plus, une génération un peu vieillissante. Il y a un vrai contraste ce soir sur le terrain entre les moyennes d'âge.
Une chose, Yves Bigot, ce qui est assez marrant, c'est que depuis vous savez, quand la France gagne de plus en plus haut, on voit des gens qui s'intéressaient pas du tout au foot, qui disent mais c'est formidable, moi j'adore. On voit même des journaux comme les Eurocuptibles qui d'un coup parlent de football. Et il y a quand même Bruno Le Maire qui nous a dit il faut absolument que ça gagne parce que c'est bon pour la croissance. Et on voit à quel point, c'est assez marrant, comme d'un coup, on sent une récupération toujours, parce qu'on sent bien, vu l'engouement populaire d'hier soir, c'est important aussi au niveau politique.
Ah non, mais là, si vous lancez le sujet sur la récupération du football par les politiques, si vous voulez, on va parler de Mussolini, on va parler de Videla, de Chirac, etc., ouais. Franco. Je veux dire, c'est... congénital au football, je veux dire, ça a toujours. Alors là, c'est un peu bénin, hein,
bien sûr.
Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai pour l'état d'esprit d'une nation. Regardez combien les fractures de la Belgique ont été oubliées et pensées uniquement par les Diables Rouges. Je veux dire, il n'y a rien d'autre qui est capable de donner le sentiment aux Wallons, aux Flamands, aux Bruxellois, etc., qui sont ensemble, qui sont un peuple, etc. Et pour les Français, nous en plus, qui avons quand même beaucoup souffert, et puis qui sommes le peuple le plus déprimé de la Terre, hein,
il y a des études qui l'ont
démontré, etc., le fait d'être à nouveau champion du monde, c'est sûr que ça va booster le moral, la fierté des Français, la manière dont on se considère nous-mêmes. Alors si ça booste aussi la croissance et les entreprises et l'emploi, alors là, c'est formidable, alors là, c'est génial, porté. Moi je signe. Déjà je suis content parce qu'on va gagner la Coupe du Monde dimanche.
Une dernière chose, Emmanuel Foulon, dans beaucoup de reportages, on voyait des Belges qui décrivaient les Français comme prétentieux. Pourquoi ? Parce qu'on est meilleurs en fait ou pas ?
Oui, bah, on vous a quand même laissé gagner hier. Mais...
alors maintenant, mais vous allez soutenir qui là pour la finale, les Français ou pas ?
À mon avis, oui, quand même les Français, parce que y a rien à faire, même si c'est pas toujours très spectaculaire. Moi, je suis pour que les belles organisations. Et puis, de nouveau, je trouve que le travail de Deschamps est tellement infini que je voudrais qu'il en soit récompensé. Et une dernière raison, c'est que j'aimerais revenir dans l'émission. Et
bien sûr, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup, Emmanuel Foulon. Merci, Lucie Lacon, Yves Bigot. On va quand même parler de la une de l'Express.
Oui, alors, qui n'a rien à voir, c'est les nouvelles, les NSP, les NPS, pardon, les nouveaux produits de synthèse, qui sont les drogues 2.0, des molécules qu'on peut acheter facilement, pour pas cher et presque légalement sur Internet.
Voilà, qui sont très dangereuses, bien sûr, et donc c'est à retrouver dans l'Express.